Vendredi 12 avril 2024. L'assassin de l'aube. Chapitre 84. Habitation Wagram, nord de Grande-Terre. Minuit. Je me gare devant l'habitation W. J'ai laissé ma voiture sur le parking de la porte d'enfer et récupéré le Tiguan. Valérie dort toujours à l'arrière. Un joli sommeil artificiel. J'espère que je n'ai pas trop forcé sur le propofol. Il faut que tu te réveilles avant l'aube. Il faut que tu assistes au feu d'artifice. Je ne vais le tirer que pour toi. Je coupe le contact. La lune éclaire les ruines de l'habitation et les squelettes d'arbres qui les profanent, mais laisse dans l'ombre dès que le regard s'éloigne les champs de canne. Aussi noir qu'une mer de cendres. Aussi noir que la plantation ce matin-là. Le 11 avril 2003. Nous habitions à Lens-Bertrand, pas très loin de l'habitation Wagram. Le brûlis dans les champs de canne à sucre était un joli spectacle. Papa nous y emmenait parfois, en prenant bien soin de rester loin des flammes, de prendre des photos sans s'approcher, de reprendre la voiture dès que la ligne de feu progressait. Papa était prudent. Il nous a fait remonter dans la Xara, maman et moi, quand les flammes barraient encore l'horizon, comme un ciel lointain dévoré par le soleil du matin. Il n'y avait aucun danger. Jusqu'à ce qu'après un virage, papa se fasse surprendre par un nuage de fumée. Un panache noir porté par le vent, dans une odeur de caoutchouc brûlé. Papa ne roulait pas vite. Il a eu le temps de freiner, mais pas de tourner. La Xara a tangué quelques secondes sur le côté, puis elle a basculé dans le fossé. Un tonneau ou deux, je ne sais plus. Presque au ralenti, avant que la voiture ne s'immobilise sur le toit. Tout s'est déroulé lentement. Aucun de nous trois n'a été blessé. Pas une goutte de sang. On s'est souri, papa, maman et moi. On avait eu très peur. On l'avait échappé belle. Puis papa et maman ont compris qu'ils étaient bloqués. Les portières étaient enfoncées, encastrées dans le fossé. Impossible pour eux de s'extirper de l'habitacle, même en ouvrant les vitres. Je devais peser à peine 25 kilos à l'époque. J'étais fine comme une sole. En cassant un carreau et en me coupant aux débris de verre, je suis parvenu à me faufiler entre le fossé et la vitre de la portière froissée. Cette fois, le sang coulait, mais je m'en fichais. Papa et maman ont crié d'une même voix. « Va chercher des secours, vite !» Une première voiture est passée. Une grosse décapotable. Je n'ai jamais su la marque, et je n'ai découvert les noms que bien après. Jacob Santa Maria l'avait loué. Il a ralenti, mais elle, assise sur le siège passager, voulait s'arrêter. Elle portait un appareil photo autour du cou. Elle parlait français avec un accent américain. Janet Jiménez. Elle a insisté. Je l'ai entendue parlementer, mais Jacob n'a pas cédé. Ne t'en fais pas, les pompiers vont arriver. Je ne veux pas avoir affaire aux flics, être obligé de témoigner. Tu t'imagines si je dois donner mon identité ? Elle, j'aurais pu l'épargner. Janet a lu la détresse dans mon regard. Janet était prête à nous aider. Mais elle a préféré détourner les yeux, ne pas contredire son amoureux, ne pas mettre en péril sa ridicule histoire d'amour avec ce beau parleur bétonneur. La décapotable a accéléré et a disparu dans un nuage de poussière brûlante. La température devenait étouffante. Une brume de chaleur rendait flou le sommet des tiges de canne à sucre. Le feu s'approchait. Cours, a crié à nouveau papa. Sauve-toi. Reviens avec de l'aide. Je n'ai pas obéi. Je n'ai pas pu bouger. Je ne voulais pas les laisser. D'autres voitures allaient forcément passer. C'était une route fréquentée. Nous n'étions pas les seuls à être venus admirer les champs en feu. J'ai frotté mes yeux et j'ai écouté le silence. J'étais certaine d'entendre un bruit. Au loin. Régulier, de plus en plus net. De plus en plus fort, j'ai couru vers lui. Je l'ai aperçu quand les flammes ont commencé à dévorer les dernières feuilles bordant la route. Une moto. Immédiatement, j'ai été persuadé que nous étions sauvés. Une moto et deux passagers. Un adulte et sa fille. assise à l'arrière, bras en ceinture autour du ventre de son père. Une fille de mon âge, 7 ou 8 ans, Shaima. Le motard s'est arrêté, a même coupé les gaz. Redémarre, je t'en supplie, papa, redémarre. Shaima ne portait pas de casque. Elle se tenait à 10 mètres de moi. Les flammes semblaient lui lécher les cheveux. C'était presque le cas. J'écartais comme des mouches les brindilles incandescentes qui volaient autour de moi, sans me soucier des brûlures. « J'ai peur, papa !» a crié Shaima. « Redémarre !» Son père a encore hésité, puis il s'est adressé à moi. « Viens, monte, on va te faire une place. » Moi, je n'ai pas hésité. J'ai refusé en secouant la tête. Je ne pouvais pas laisser papa et maman. On a eu un accident. Mon père et ma mère sont coincés là-bas. J'ai désigné le bout de la route. On devinait la carcasse de la Xara. La brume de chaleur déformait tout, comme si la carrosserie fondait. Une flamèche s'est posée sur la joue de Shaima. Elle a hurlé. « Papa !» Le moteur de la moto a octé, avant de ronronner à nouveau. « On va revenir, petite. On ramène les secours. » Les secours ne sont jamais venus. Je n'ai jamais su s'ils les avaient prévenus. Tout a été trop vite, ou il était déjà trop tard. J'ai couru telle une idiote derrière la moto. Je me suis arrêté devant la Xara. Maman ne parlait plus. « Elle se repose, » m'a dit papa. Mais je ne l'ai pas cru. La voiture était remplie de fumée. La voix de papa devenait plus faible, telle l'eau qui ne coule plus quand le tuyau est percé. Je savais déjà qu'aucune autre voiture ne passerait. Les flammes étaient trop proches. Le bitume se transformait petit à petit en une lave grise qui aurait détruit les pneus de n'importe quel véhicule attardé. Mes larmes séchaient dès qu'elles coulaient. Le dernier espoir a surgi par surprise, sans un bruit, traversant le brasier comme par magie. Deux adultes, main dans la main, qui couraient le plus vite possible, visage noirci, cheveux roussis, recouverts de pareo humidifié avec ce qui leur restait d'eau. « Sauve-toi !» m'a crié l'homme en ralentissant. « Ne reste pas là, sauve-toi !» La femme l'a aussitôt tiré par la main. Ils ont continué leur course, sautant entre les flaques de bitume fondu, baissant la tête pour échapper aux étincelles, souffle coupé, comme si ces 8 mots de conseil étaient tout ce qu'ils avaient à m'offrir. Ils ont disparu entre 2 arbres enflammés. Audrey Colombelle et Ludovic Rossi. S'ils n'avaient pas réservé une nuit dans un hôtel de Port-Louis le lendemain pour se soigner et se laver, je n'aurais jamais connu leur identité. Je suis retourné à la Xara. La fumée s'accumulait dans le fossé. Le feu la cernait. J'ai imaginé me faufiler par la vitre arrière de la portière cabossée pour rejoindre mes parents. Mais papa a puisé dans ce qu'il lui restait de filet de voix. « Nous n'avons plus que toi. Alors cours, ma chérie. Ne perds plus de temps. Va chercher de l'aide et reviens vite. Je t'aime. » Cette fois, je n'ai pas réfléchi. Oui, si je courais vite, il restait une chance. J'ai sprinté autant que je le pouvais. Je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, à 100 mètres ou à 1 kilomètre de la première maison habitée. Combien de temps ai-je couru? Les pompiers sont apparus avant que je m'y attende. J'ai reconnu leur gyrophare au bout de la rue. J'ai accéléré encore. Je me suis effondré dans les bras du premier venu, un policier en uniforme. Je hurlais, je tapais des mains et des pieds, je crachais des cendres et j'étalais de la suie. Je lui ai arraché une mèche de cheveux. Le policier ne me lâchait pas, mais il ne comprenait rien. Il me faisait répéter, me demandait de parler plus lentement. C'est lui qui était lent. Trop lent. Abruti par la chaleur, comme ces types ivres que le soleil endort. Comme ces drogués qui réagissent au ralenti avec des gestes de zombies. Je ne l'ai su que bien plus tard. Valéric Cancel était ivre, sous l'emprise du crack ce jour-là. Personne n'a parlé. Ces hommes l'ont protégé. Ce n'est consigné dans aucun dossier. Il a fini par me libérer. Il a fini par envoyer des secours dans le brasier. Trop tard. Un médecin m'a fait une piqûre et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé à la polyclinique des Abîmes. Une psychologue en robe à fleurs de printemps, habillée comme pour un mariage, m'a annoncé que mes parents étaient décédés, mais que moi j'allais bien. Juste de petites brûlures, des coupures, des... J'allais bien. Si elle avait pu lire dans ma tête, cette psy, je ne l'écoutais plus. Je croisais les doigts sous le drap. Je prononçais des mots invisibles sans remuer les lèvres. Je jurais. Je jurais de me venger de tous ceux qui avaient tué papa et maman. Je savais que cela prendrait du temps, que je devrais découvrir le nom de tous ceux qui les avaient laissés mourir, que je devrais y consacrer ma vie. Mais pour ce que la vie m'avait laissé, un poème était accroché sur le mur de ma chambre d'hôpital. Nouvelle bonté, d'Aimé Césaire. Il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube. La vie mort, la mort vit, les souffleteurs de crépuscule, les routes pendent à leurs coups d'écorcheurs. Les assassins d'aube, c'était eux. Désormais, ce serait moi. Je les tuerai à l'aube, comme ils avaient tué mes parents. J'ai mis des années à échafauder mon plan, chapitre après chapitre, à la façon dont on construit un roman policier. Commencer par ceux qui avaient fait preuve d'un peu d'humanité. Janet Jiménez, Ludovic Rossi, le père de Shaima. Les faire disparaître sans qu'ils souffrent, sans qu'ils comprennent. Des accidents banals. Un à Cuba, un au Rwanda, un en pleine de France. Qui aurait pu soupçonner le moindre rapport entre ces trois faits divers? Tous devaient mourir, mais il fallait que Jacob Santamaria, Audrey Colombel et Shaima Sadji paient davantage. Ce seraient les dernières victimes, ici, sur la terre de leurs crimes. Je devais les attirer en Guadeloupe, mais j'avais tout mon temps pour cela, pour apprendre à les connaître, identifier leurs faiblesses, les inviter sans qu'ils se méfient, acquérir assez de connaissances informatiques pour les espionner. Je devais les éliminer un par un, à l'aube, sans que personne ne puisse deviner qu'il existait un lien entre eux. Ma mise en scène servait à cela, laisser croire à des meurtres rituels, symboliques, politiques, de touristes choisis au hasard. Jacob Santamaria, Audrey Colombel. Le meurtre de Shaima a été le plus délicat, le plus risqué, au milieu des policiers. Mais je l'avais prévu ainsi, pour que nul ne puisse me soupçonner. Je devais tuer Victorious quatre bras en avant-dernier, car le rapprochement avec l'incendie de l'habitation W deviendrait alors évident. Il méritait autant que les autres son châtiment. Mes parents sont morts à cause de la fumée noire de ses pneus abandonnés, de sa plantation entretenue comme une décharge et de sa pratique du brûlis d'un autre âge. Tuer Valéric Cancel en dernier. Il serait le plus difficile à piéger, mais mes cadavres étaient des cailloux blancs de petits poussets. Une mèche de cheveux, l'anagramme de son ancêtre, autant de grains de sable pour le compromettre, pour qu'il comprenne, crime après crime, sans pouvoir rien révéler aux autres policiers. Pour qu'il vienne seul, quand je l'aurai décidé. Pour que cet ultime sacrifice soit le plus sublime de tous. Pour qu'il périsse là où papa et maman ont péri. Pour qu'ils meurent comme ils sont morts, d'une lente asphyxie, incapables de s'échapper, cernés par le brasier.